Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Bienvenue dans la matinale week-end, il est 8h.
Un tout nouveau journal avec vous, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon visé par une enquête pour injure publique après des propos sur des policiers de la Bravem. Deux personnes tuées dans l'est du pays après le passage de la tempête Matisse. Et puis de la Formule 1, les qualifications pour le Grand Prix d'Australie sont en cours. On vous les fait vivre dans ce journal.
Et votre rendez-vous à 8h10, le témoin RMC, Eve Guavea, nous racontera en direct son combat pour faire changer la loi sur la fin de vie.
La matinale week-end.
Jean-Luc Mélenchon dans le viseur de la justice.
Le leader de la France insoumise sous le coup d'une enquête pour outrage public envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance, Cyprien Pézeril.
C'était dimanche dernier sur la chaîne LCI. Jean-Luc Mélenchon dénonçait les méthodes d'action de la Brave M, ces policiers en binôme sur une moto, chargés de réprimer les actions violentes.
Nous enverrons ces jeunes gens se faire soigner. Ce sont des volontaires. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de dire « oui, je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant ».
Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a donc signalé à la justice ses propos. Hier soir, un insoumis dénonçait, je cite, « un contre-feu pour protéger cette unité qui sème la terreur ». LFI qui réclame d'ailleurs la dissolution de cette brigade. En juin dernier, Jean-Luc Mélenchon accusait déjà des forces de l'ordre. Il disait, je cite, « la police tue ». Mais il n'avait pas été poursuivi. Cette fois-ci, il y a bel et bien une enquête qui n'en est qu'à ses débuts. Mais politiquement, elle tombe au mauvais moment pour l'ancien candidat à la présidentielle. Elle pourrait l'affaiblir en pleine bataille contre la réforme des retraites.
Cyprien Pézeril du service politique de RMC. Et dans ce contexte, le préfet de police de Paris annonce également l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de la justice après la présence dans l'émission de Cyril Hanouna hier soir de 4 personnes assurant faire partie de cette brigade. La Brave M.
Le bilan est lourd ce matin après le passage de la tempête Matisse.
Deux personnes ont perdu la vie après des chutes d'arbres dans l'est de la France. Des vents extrêmement violents ce matin. Les vigilances ont été levées par Météo France. Une mini-tornade a même frappé hier Saint-Jean-de-Sauve, c'est dans la Vienne. Nolan était au collège quand ça s'est passé.
J'étais au CDI et soudainement j'ai entendu un bruit. Je me suis précipité vers la fenêtre et j'ai vu l'arbre se décrocher du sol. Et il est tombé sur plusieurs voitures et les voitures se sont cassées. J'ai eu très très peur et ma réaction c'était de me précipiter sous une table. Et je leur ai dit aussi aux autres de se précipiter sur une table vu que ça peut être très très dangereux.
Et puis, avis de gros temps aussi, mais sur l'hôtel Matignon mercredi.
Les syndicats y ont rendez-vous avec la première ministre Elisabeth Borne qui affirme qu'elle va écouter les revendications de l'intersyndicale. Pas question en revanche pour elle de mettre la réforme des retraites en pause, hein, c'est ce qu'elle affirme ce matin au quotidien à le journal du Centre. La CGT sera représentée par sa nouvelle secrétaire générale Sophie Binet, ce qui ne convient pas à tout le monde, Victor Joannin.
Chez les délégués cégétistes, il n'y a guère que certains ultras des fédérations les plus dures, comme les raffineurs, qui auraient préféré que Sophie Binet rejette l'invitation de la Première ministre. Christophe, au contraire, s'en félicite.
À un moment donné, il faut dialoguer. On va pas cramer des poubelles jusqu'en 2027. Donc il faut quand même trouver une sortie. Mais la sortie, c'est, elle l'a répété, elle l'a redit, c'est le retrait de la réforme.
Sophie Binet est la personne idéale pour mener le combat contre la réforme des retraites, estime Denis Gravouille, secrétaire général de la Fédération Spectacle, qui rappelle qu'elle fut responsable du syndicat étudiant de l'UNEF.
C'est sa génération qui a fait tomber le CPE en 2006. C'est cette génération-là qui va faire tomber la loi sur les retraites.
Dans ce bras de fer contre le gouvernement, il faudra aussi être unis, martèle Monica. Le chantier prioritaire de Sophie Binet sera donc de panser les plaies d'une organisation divisée.
Ah oui, il y a des fractures, je pense que ça va être compliqué pour elle. Franchement, je lui souhaite courage pour nous rassembler tous.
La nouvelle secrétaire générale ne sera pas seule. Deux membres de l'équipe de Sophie Binet sont issus des fédérations les plus en pointe dans la mobilisation contre la réforme des retraites, celle des énergéticiens et celle des cheminots.
Victor Joannin pour RMC. Et puis à noter ce matin, le dernier magazine Playboy, pas encore dans les kiosques, mais sa couverture fait déjà couler beaucoup d'encre. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, a accepté de poser pour le magazine. Elle y a accordé une interview portant sur la liberté des femmes, mais aussi le féminisme. Publication de ce magazine le 8 avril prochain.
Il est 8h04 et nous sommes samedi. Vous allez peut-être faire vos courses et encore une fois, vous allez constater que les prix ont augmenté.
Et ça ne s'arrête pas sur les produits alimentaires, plus 16% par rapport à mars de l'année dernière. Les grands gagnants de ce phénomène qui dure, ce sont bien les enseignes de hard discount. Et cette hausse des prix, eh bien, elle ne devrait pas s'arrêter. C'est ce qu'explique Émilie Maillère, spécialiste de la consommation et de la grande distribution.
Au 1er mars, les négociations entre les industriels et les distributeurs de la grande consommation se sont terminées. Et donc, à partir de là, les nouveaux prix qui ont été négociés entre les deux parties, qui sont des prix à la hausse, s'appliquent dans les magasins. L'inflation, elle va continuer de grimper probablement jusqu'à la moitié de l'année. Et puis, à moitié de l'année, l'inflation va se tasser. Mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, hein. Donc, globalement, on estime que fin 2023, quand on comparera les prix à la fin de l'année 2021, on sera probablement sur des augmentations de l'ordre de 25%.
Et puis nous sommes le 1er avril et comme chaque début de mois, il y a des changements dans notre quotidien, à savoir la fin de la trêve hivernale ou encore la revalorisation des allocations chômage et les prestations sociales. Et puis des nouvelles du pape François également ce matin, puisque le souverain pontife devrait quitter tout à l'heure l'hôpital dans lequel il suivait des soins depuis mercredi. Et on apprend justement qu'il devrait célébrer une grande messe ouverte au public en septembre à Marseille, lors de sa visite dans la cité phocéenne.
Allez les sports avec les qualifs du Grand Prix d'Australie, c'est en ce moment.
La direction Melbourne, vous suivez justement ces qualifications pour RMC, Jean-Luc Roy. La pluie s'y est invitée avec son lot de surprises et pour le moment, on n'a pas encore la grille, hein, Jean-Luc.
Non, effectivement, il y a eu tout à l'heure une interruption au drapeau rouge, mais c'était pour la sortie de Sergio Pérez, l'équipier de Verstappen. Pour le moment, à 1 minute 30 exactement du terme de ses qualifications de la Q3, eh bien Verstappen occupe la pole position pour 9 millièmes seulement devant Lewis Hamilton. Fernando Alonso est 3e devant Russell, Leclerc et Sainz. À signaler que Verstappen n'a jamais signé la pole à Melbourne et n'a jamais remporté de victoire sur ce tracé-là.
Jean-Luc Roy, le monsieur Formule 1 de RMC.
Et le foot avec l'OM qui cale à la maison face à Montpellier.
Les Marseillais qui ont concédé le nul hier soir un partout en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Marseille toujours deuxième au classement avec 60 points, mais les Phocéens peuvent voir Lens revenir à égalité ce soir si les Nordistes s'imposent à Rennes. L'autre rencontre du jour, ce sera Auxerre 3 à 17h. Et puis c'est une information RMC ce matin, RMC Sport. Le Paris Saint-Germain jette son dévolu sur le joueur de Naples, Victor Osimhen, le club de la capitale qui souhaite le recruter en attaque, Fabrice Hawkins.
Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, a coché le nom de Victor Osimhen. Le buteur de 24 ans est très performant avec Naples cette saison, 21 buts en Serie A. À part Erling Haaland, aucun joueur ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens. Victor Osimhen est un attaquant moderne, capable de marquer dans toutes les positions, redoutable dans la surface de réparation. Le Nigérian sera très courtisé cet été, notamment en Premier League où Manchester United le surveille de très près. Luis Campos a déjà rencontré l'entourage du joueur, qui n'est pas contre l'idée de rejoindre le club de la capitale. Selon nos informations, Naples voudra au moins 100 millions d'euros, mais l'homme fort du recrutement à Paris pense que l'opération est réalisable. Le PSG pourrait mettre des joueurs dans la transaction pour faire baisser la note.
L'information RMC Sport, signé Fabrice Hawkins. Et puis du rugby aujourd'hui également avec les 8e de finale de la Champions Cup. Le tenant du titre ouvre le bal des Français à 18h30. La Rochelle qui reçoit Gloucester. Demain, ce sera au tour de Toulouse et de Montpellier de tenter la qualification.
Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. C'était le journal de 8h sur RMC. Allez, c'est l'heure de jouer. Encore un très beau cadeau à vous offrir ce matin. Dans le 10 minutes chrono, nous partons au casino, Marguerite.
Un week-end pour deux personnes, pour deux nuits très précisément, dans les casinos hôtels par touche. Hein. Vous aurez le choix entre plusieurs casinos dans toute la France. Vous allez pouvoir profiter, allez, je vous donne le programme pour un peu vous appâter, d'un repas à la brasserie du casino, de 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans en abuser, bien sûr. Et pour gagner tout cela, c'est très simple.
Vous envoyez le mot matin par SMS au 7-32-16. Matin par SMS au 7-32-16. Si vous êtes téléphone, 32-16, la touche 4. Allez-y, c'est maintenant, vous avez 10 minutes pour jouer. Bonne chance à tous.
À suivre dans la matinale week-end.
Dans un instant, un témoignage fort sur RMC, celui d'Eve Gouaveia. Bonjour. Vous allez nous raconter votre combat pour changer la loi sur la fin de vie et l'histoire de votre mère très malade qui a voulu en finir plusieurs fois sans le pouvoir. Ève, on vous retrouve en direct dans un instant sur RMC.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Bon réveil, bon début de week-end. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à 9h. Il est 8h12.
RMC, la matinale week-end, le témoin RMC.
Un témoignage fort ce matin avec Ève Guaveya, membre de l'association pour le droit à mourir dans la dignité.
Ève, bienvenue, merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Vous avez rejoint cette association poussée par votre histoire personnelle. Vous allez nous la raconter ce matin. Vous allez aussi nous dire ce que vous attendez de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'achève demain. Mourir dans la dignité. Cette question, Ève, vous y avez été confrontée de manière brutale avec votre mère Yvonne, atteinte d'un cancer généralisé. Yvonne qui a voulu mourir plusieurs fois.
Oui, effectivement, elle a la première fois, je l'ai trouvée chez elle, inanimée. Je l'appelais tous les jours. Elle n'a pas répondu, donc je suis allée chez elle. Et Dieu merci, j'avais une clé. Et je l'ai trouvée inanimée. Voilà. Donc ça a été. Vous voyez quand j'en parle, j'ai encore la gorge serrée.
Bien.
Voilà, j'étais tellement paniquée que je me rappelais même pas son adresse pour appeler les pompiers. Je suis allée frapper chez les voisins qui sont venus et qui ont appelé les pompiers. Quand ils sont arrivés, ils sont très professionnels et ils ont tout de suite regardé autour d'elle. Elle était allongée à terre devant la baie vitrée et ils ont trouvé des médicaments. Et le pompier me dit, mais votre mère a déjà parlé d'abréger sa vie? Je dis, mais pas du tout. Ma mère est très combattante.
Alors, que votre mère est atteinte justement d'un cancer, Ève, elle ne vous en avait jamais parlé en amont de sa volonté de mettre fin à ses jours. Est-ce qu'elle vous a expliqué après ce geste radical?
À ce moment-là, elle n'était pas atteinte du cancer. Elle avait 89 ans. Elle avait tous les jours un pépin de santé qui se manifestait ici. Voilà. Donc, non, elle ne m'en avait pas parlé. Donc, c'était pour moi vraiment une stupéfaction de voir cette femme pleine de vie et qui avait attendu à ses jours. Ouais, c'était. J'insiste sur le fait qu'elle était pleine de vie et que ce n'est pas. Je n'appelle pas ça un suicide. J'appelle ça une auto-euthanasie. Et parce qu'effectivement, après, quand on en a parlé, après, elle m'a dit qu'elle voulait que demain, je reprends ces mots, demain ne peut pas lui apporter plus qu'hier. C'est à son âge qu'elle souffre, elle a toujours quelque chose et donc elle voudrait mourir avec plus de sérénité, mais ce que notre pays ne lui a pas permis.
Alors justement, Ève, quand sa maman vous dit ça, comment on le reçoit, comment on réagit face à la détresse d'un parent? Vous avez reçu ça seul ou vous avez pu être accompagnée?
J'étais quand même, je suis fille unique, donc j'étais quand même seule. Et après, j'ai des enfants, mais qui étaient pas forcément à côté. Non, j'étais seule. Et quand 3 ans après, elle a recommencé, j'étais encore seule.
Elle a recommencé à prendre des médicaments pour mettre fin à ses jours.
Ouais. 3 ans après, elle avait 92 ans. Elle est morte 2 ans après. Elle est donc 89, elle a 93 ans. Elle est morte 1 an après. D'accord. 93 ans, elle a recommencé et là, je suis arrivée chez elle de nouveau, mais cette fois quand je suis arrivée chez elle et que je l'ai trouvée inanimée, là je savais que c'était volontaire et je me suis trouvée devant l'alternative de j'ai resté auprès de ma mère qui était en train de mourir, ou alors j'ai appelé les pompiers, ce qu'elle n'aurait pas voulu, et ben j'ai appelé les pompiers. Voilà.
J'imagine que vous avez parlé de la situation de votre mère avec les médecins. Quelle a été leur réponse?
La réponse, c'est que après, quand elle, de nouveau elle s'en est sortie et que elle a vu un gastro-entérologue qui a dit il faut que je vous opère parce que vous avez un cancer du côlon, et il lui a dit, si je vous opère pas, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Et elle lui a dit,
non,
je veux pas mourir dans d'atroces souffrances, je veux pas. Mais elle lui a dit, mais par contre, si pendant l'opération, franchement, s'il se passe quelque chose, moi je veux pas être animé. C'est, pour moi, ça serait une bonne chose. Et il lui a répondu, j'étais avec elle, de manière vraiment glaciale, mais madame, je ne suis pas là pour ça.
Eve, demain s'achèvera donc cette convention citoyenne sur la fin de vie. Emmanuel Macron recevra les citoyens qui ont participé à cette convention lundi. Est-ce que vous espérez que ça change quelque chose? Et si oui, quoi?
Alors oui, j'ai beaucoup d'espoir que ça change quelque chose. Ce que j'espère déjà deux choses, c'est que la convention se prononce en faveur d'une loi, non pas un réaménagement de la loi Leonetti, mais
une
vraiment
nouvelle loi.
Une nouvelle loi qui permette une aide à mourir, soit sous la forme d'une euthanasie, soit sous la forme d'une possibilité de suicide assisté, bien sûr pour les gens qui le souhaitent. Et donc ça, j'aimerais beaucoup qu'il y ait cette loi. Et que j'aimerais aussi, mais ça l'État le sait, c'est qu'il y ait des soins palliatifs partout.
Oui, et c'est ce que j'allais vous demander justement, voilà. Ève. Est-ce que votre maman n'a pas pu être aidée à mourir, n'a pas pu bénéficier d'une aide active à mourir, parce que pour l'instant c'est interdit en France, mais est-ce qu'elle a pu bénéficier de soins palliatifs? On sait qu'il y a beaucoup de manque de personnel, ça a été possible ça?
Oui, elle a pu avoir une aide, des soins palliatifs peut-être, je sais pas, 15 jours avant de mourir
C'était suffisant selon vous?
Mais non, c'était pas suffisant. Elle est déjà ça arrive souvent un peu au terme de l'agonie, quoi. C'est-à-dire la personne est déjà complètement capote. Donc ça arrive très 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 tard.
Ève, j'ai une dernière question pour vous, parce que forcément cette histoire avec votre mère, ce que vous avez vécu, a dû changer votre perception de la vie, de la mort. Est-ce que vous lancez un appel ce matin à ceux qui nous écoutent pour se saisir de la question de cette fin de vie? Est-ce que vous, déjà, vous l'avez peut-être fait avec vos enfants?
Bah oui, parce que mes enfants, déjà j'ai fait des directives anticipées, donc les pauvres, ils ont dû envisager la mort de leur maman. Donc oui, je leur en ai parlé. En termes d'appel, j'appelle. Enfin, moi, je trouve
finalement, parce que ce sont des questions difficiles.
Comment
bien le faire, aborder ces questions?
Déjà, mes filles étaient quand même sensibilisées avec leur grand-mère. Et comment bien le faire? Moi, je trouve que c'est vraiment possible. C'est vrai que ça nous demande un travail parce que la mort, c'est pas glamour. On n'a pas envie d'y penser, surtout avec les gens qu'on aime. Mais en réalité, on est de passage, quoi. Donc, on nous a donné la vie. À un moment, elle va être reprise. Et personnellement, le fait de savoir que j'ai une finitude, que je vais mourir, peut-être, je sais pas. Moi, ça me donne très envie de vivre et justement de vivre le mieux possible les années qui me restent à vivre.
Merci beaucoup, Ève. Merci d'avoir témoigné ce matin en direct sur RMC. Merci d'avoir été avec nous. Ces témoignages sont importants. Oui, vous l'avez dit, la mort fait partie de la vie. Allez, il est 8h20 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
C'est un homme charismatique et c'est le mot qui revient le plus souvent pour qualifier Hervé Renard. Sans doute aussi pourquoi il a été choisi comme sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot. On va y revenir dans une minute, la Story Sport.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus sur RMC. La Tour Eiffel démontée et vendue. Ça sera l'histoire du jour. Rassurez-vous, on est le 1er avril.
La Story Sport.
La Story Sport, c'est votre nouveau rendez-vous dans la matinale week-end. Avec vous, Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il ne manquait plus que l'officialisation et depuis hier, c'est fait. Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe française féminine de football.
Arrivé attendu depuis quelques semaines, mais qui est-il? Qui est vraiment le successeur de Corinne Diacre?
Eh bien Hervé Renard, c'est un nom, mais c'est surtout une gueule de baroudeur. D'ailleurs, il en a le CV et la dégaine, adepte du bronzage, des chemises blanches façon BHL et des défis exotiques. En moins de 20 ans, il est passé par le Vietnam, la Zambie, le Ghana, l'Angola, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Hein? Et tout récemment, l'Arabie Saoudite. Une vie faite de voyages et de succès improbables. Illustration en 2012, c'est peut-être sa plus belle victoire et c'est sûr la plus inattendue. Avec les Aigles de Zambie, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les trois favoris. Le tout, eh bien avec la 71e équipe mondiale et des joueurs qui évoluent tous ou presque au pays. Un succès historique qui va figer cette image de routard génial. Mais attention, Renard, ça n'est pas qu'un aventurier à la plastique avantageuse, c'est aussi une voix. Écoutez ça, Arabie Saoudite-Argentine lors de la Coupe du Monde de Qatar, à la mi-temps, son équipe est menée 1-0. Sa causerie et son traducteur vont rester dans les mémoires.
Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him if you want.
Miracle, l'Arabie Saoudite, miracle, l'Arabie Saoudite renverse le match 2-1, première et seule défaite pour les futurs champions du monde argentin, victoire historique là encore. Baroudeur, oui, mais pas mercenaire. Hervé Renard impose son style direct, franc, passionné, vous l'avez entendu. Mais le projet l'emporte souvent sur le salaire. En prenant la tête des Bleus, il diviserait ses prétentions mensuelles par trois ou plus, symboles de son attachement à la France et preuve de sa motivation.
Je retiens qu'il porte des chemises façon BHL et qu'il parle mieux anglais que moi. Mais pourquoi a-t-il été choisi, lui et pas un autre, pour diriger les Bleus au féminin?
Bah déjà, c'est la compétence. C'est le premier sélectionneur à avoir remporté la CAN avec deux équipes différentes. Mais la vraie explication de sa nomination tient en un mot qui revient immédiatement quand on parle d'Hervé Renard.
Il fallait qu'il soit charismatique pour pouvoir incarner notre sélection nationale. Ce nom s'est imposé, c'est celui d'Hervé Renard. Il a ce charisme, ce leadership dont nous pensons qu'il est nécessaire pour notre équipe nationale pour lui faire gravir une marche supplémentaire.
L'objectif de la Fédération Française de Football est clair, faire basculer le foot féminin dans une nouvelle dimension, plus structurée, plus médiatique. D'ailleurs, preuve que la communication est importante, le style du coach a évolué. Hier, terminé le beau gosse baroudeur, Renard a troqué la chemise blanche pour une jolie veste de costume sombre.
Ah, comme quoi.
Désolé, bah oui, tout change. Reste deux limites à cette nomination. La première, c'est que le technicien n'a jamais coaché une équipe féminine. Et la deuxième, c'est qu'il n'a jamais vraiment connu le succès en France, malgré des passages à Cherbourg, Sochaux, Lille. Avec le Savoyard, le foot féminin se cherche une nouvelle légitimité aux yeux du public français. Ça tombe bien. Hervé Renard aussi.
Les chemises d'Hervé Renard. Merci Pierre Amiche. On en sait un peu plus sur le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot.
Il est 8h25. Nous avons
la matinale week-end. Le 10 minutes chrono.
Nous avons un gagnant ou une gagnante, bien sûr. Ça y est, les 10 minutes chrono. Les 10 minutes sont achevées. Le tirage au sort a eu lieu. Saint-Chamond. C'est dans la Loire, ça, je crois.
Bravo, Mathieu.
Bonjour, Faustine.
Bonjour, Mathieu. Bonjour, Marguerite.
Bonjour.
C'est bien ça, Saint-Chamond dans la Loire?
Oui, c'est ça, exactement.
Eh bien, vous avez de la chance ce matin à Saint-Chamond, Faustine.
Et la journée commence bien.
Parfait. La journée commence bien. Je vous donne un peu le programme, Faustine. On y va?
Oui.
Allez, vous avez gagné deux nuits pour deux personnes dans un casino hôtel Partouche. Il y en a dans toute la France. Donc, vous pourrez choisir. Vous allez pouvoir profiter d'un repas à la brasserie du casino, de 30 euros de crédit de jeu aussi. Vous allez tenter votre chance.
Bah oui, en allant au boulot, en plus, ça ce matin, et maintenant, je pourrais tenter ma chance au casino, donc parfait.
Bah ouais. Vous avez bien fait de vous lever.
Oui, c'est
voilà. D'écouter RMC de bon matin.
Exactement, mais merci. Comme tous les jours en plus, donc voilà.
Votre fidélité récompensée.
C'est ça, et ben merci beaucoup.
Merci d'avoir joué avec nous, à bientôt, Faustine.
Merci, bon week-end. Bonne journée, au revoir, merci.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec les Thalasso Valdis Resort. Prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort, hôtel Thalasso et Spa.
Allez, il est 8h26 sur RMC. Dans un instant, un nouveau journal avec à la une le manque de poissons. On vous explique tout.
Et puis, doit-on avoir peur de ChatGPT? L'Italie vient d'interdire l'utilisation de cette nouvelle intelligence artificielle. On va en parler à 8h40 avec Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Il sera l'invité de notre grand entretien tout à l'heure. Samedi 1er avril, soyez les bienvenus.
Il est 8h30. Tout de suite, c'est l'heure d'un nouveau journal sur RMC avec vous, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous. En ce 1er avril, le poisson va se faire rare sur les étals. La tempête Mathis qui a causé beaucoup de dégâts, 2 morts sont à déplorer. Et puis en foot, Marseille tenue en échec à domicile par Montpellier.
Faut-il mettre ChatGPT sur pause? La nouvelle intelligence artificielle affole même certains de ses créateurs. Notre invité ce matin, Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, à 8h40.
Le vent a soufflé très fort hier.
Avec des dégâts en Bretagne et en Dordogne, plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité une partie de la journée. Et le bilan humain de cette tempête Mathis, il est déjà très lourd. Deux jeunes hommes de 19 ans et d'une vingtaine d'années sont décédés hier, percutés par la chute d'un arbre. Les explications avec vous, Léna Marjac.
Oui, l'homme de 19 ans se trouvait à côté de son véhicule sur une aire de repos dans les Vosges quand un arbre est tombé sur lui. La deuxième victime, l'homme d'une vingtaine d'années, a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il conduisait Puisé, près de Mulhouse, en Alsace. La passagère est, elle, hospitalisée dans un état grave. La tempête Mathis a traversé donc une partie du pays. À Saint-Jean-de-Sauve, dans la Vienne, une tornade a causé d'importants dégâts. En seulement quelques secondes, des toitures arrachées, des arbres déracinés, une école et un EHPAD touchés sans faire de victimes. Dans l'Indre, à Buzancé, une poutre a traversé une salle de classe d'une école primaire pendant un cours. Le pire a heureusement été évité. Et dans le Nord, des rafales de vent jusqu'à 130 km/h. Le trafic des trains hier entre Lille et Douai a été perturbé. Mais en tout cas, ce matin, toutes les vigilances ont été levées.
Merci beaucoup pour ces précisions, Léna Marjac. Vous parlez justement du trafic des trains. Cette tempête qui a balayé plus largement l'ouest de l'Europe. Dans le nord de la Suisse, par exemple, deux trains ont déraillé hier après-midi, faisant une quinzaine de blessés.
Pas de poisson aujourd'hui sur les étals. Et pour le coup, ce n'est pas un poisson d'avril.
Car les pêcheurs sont en colère. Dès l'hiver prochain, ils n'auront plus le droit de pêcher dans certaines zones pour protéger les dauphins. Un plan européen est aussi à l'étude pour restreindre l'activité des chaluts. Des mesures qui passent mal dans la profession. Estelle Henry s'est rendue dans le mignon petit port de Sète au bord de la Méditerranée.
Dans la poissonnerie de Chris, quasiment aucun poisson français. Près de la moitié de ses bancs sont vides.
Ben nous, ça nous impacte avec la fermeture des criers. Donc forcément, beaucoup plus difficile de trouver la marchandise. Je pense que je dois être à moins 30% sur aujourd'hui. Demain, ça risque d'être plus parce que j'aurai moins de marchandises.
Des états clairs semés qui surprennent les clients comme Michael, plutôt compréhensif.
Oui, j'ai lu ça aujourd'hui. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils ont sûrement leur raison de le faire. Ils ont des grosses pressions réglementaires et financières. Ils ont aussi le Brexit aussi qui joue pas mal. Voilà, ça s'accumule à beaucoup d'autres désaccords.
Un mouvement de colère lié à un sentiment d'abandon pour Bertrand Wessling, président de la plus grande société coopérative de pêcheurs de Méditerranée.
Les pêcheurs ont souffert déjà de la crise du Covid. Et puis ensuite, il y a eu le problème du coût de l'énergie. Et s'ajoute à ça un ensemble de contraintes réglementaires qui fait que maintenant, il n'y a plus d'avenir dans une partie des métiers de la pêche.
Le manque de poissons pourrait se poursuivre si les pêcheurs n'obtiennent pas la suspension du plan européen interdisant le chalutage dans les aires marines protégées.
En 20 ans, la flotte française a déjà diminué de plus de 25%. Et seul un quart des poissons vendus aujourd'hui sur les étals sont issus de la pêche nationale.
8h33 sur RMC. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la CGT. C'est une femme qui prend la suite de Philippe Martinez.
Sophie Binet, 41 ans, CPE de formation. Un CV qui détonne quelque peu au sein de l'organisation syndicale, vieille de 128 ans. Mais un discours toujours aussi ferme sur la très controversée question de la réforme des retraites. On l'écoute.
La CGT, ça a toujours été une organisation qui lutte et qui négocie. Sauf que là, l'actualité du moment, c'est la lutte, la lutte, la lutte. C'est-à-dire que là, tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites, il n'y aura pas de négociation. La seule chose dont on peut parler avec le gouvernement actuellement, c'est le retrait de la réforme des retraites. Tant qu'on ne traite pas ces questions, on ne peut pas traiter d'autres sujets.
Et justement, Sophie Binet se rendra bien à Matignon mercredi prochain à l'invitation d'Elisabeth Borne pour renouer le dialogue. Mais la Première ministre a prévenu, pas question de faire une pause avec la réforme des retraites. Puis concernant les manifestations, un collectif d'avocats a déposé plainte contre X pour des arrestations et des détentions arbitraires. Il dénonce, je cite, des gardes à vue abusives et infondées. Le collectif qui a comptabilisé 425 gardes à vue pour 52 poursuites judiciaires seulement. Et puis, nouvelle polémique autour de la brave M, la brigade de répression des actions violentes. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative en cause la présence de 4 policiers sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna hier soir. Ils étaient venus témoigner de leur quotidien. Problème, il n'appartiendrait pas à cette brigade de la police. La procureure de la République de Paris a été saisie.
À 8h35, les sports et d'abord du foot. Marseille fait du surplace à domicile.
Un nouveau match nul au Vélodrome face à Montpellier. Cette fois, un partout. Un petit point qui ne fait pas les affaires des Olympiens, talonné au classement par le Racing Club de Lens. Et il y a des raisons d'être inquiet, Florent Germain.
Oui, l'OM ne gagne plus au Vélodrome. Et cette fois, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a sorti l'excuse des matchs internationaux pour expliquer cette nouvelle contre-performance.
On a payé cher cette trêve internationale, mentalement, physiquement. Cela a eu un impact sur nos joueurs avec tous ces voyages. On savait que ce serait difficile.
Igor Tudor a pourtant décidé de laisser sur le terrain des internationaux comme Alexis Sanchez et Jordan Veretout, fatigués, c'est vrai, et méconnaissables. Dimitri Payet, lui, n'a joué qu'un quart d'heure, mais il brandit le même argument que son entraîneur.
Non, je ne prends pas ça comme une excuse, mais je pense que c'est
quelque chose qu'il faut souligner. Et si je dis pas de bêtises, je pense que ça fait deux fois après les trêves internationales que nous on joue le vendredi. C'est un détail qui a compté ce soir.
Des propos qui d'ailleurs ont gentiment fait sourire les Montpelliérains comme le défenseur Christopher Julien.
C'est leur problème. Hein. On a des internationaux aussi qui sont partis. Pour moi, les excuses, c'est les perdants qui les trouvent.
Et l'OM pourrait perdre justement la deuxième place si Lens bat Rennes ce soir.
Et cette 29e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec Auxerre et Troyes à 17h. Et le Racing Club de Lens, justement concurrent direct de l'OM qui se déplacera à Rennes dès 21h. Les Bretons en forme, ils avaient battu le Paris Saint-Germain avant la trêve internationale. De quoi donner de la confiance à l'entraîneur Bruno Genesio?
Il reste 10 matchs, on est dans le sprint final, donc il faut être capable d'afficher 9 fois sur 10 le degré d'investissement qu'on a affiché à Paris, de concentration. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera tous les matchs, mais au moins on sait qu'on en gagnera beaucoup si on est dans cet état d'esprit-là.
Le Paris Saint-Germain, justement, recevra Lyon en clôture de cette 29e journée. Ce sera demain soir à vivre en direct sur RMC depuis le Parc des Princes.
En rugby, La Rochelle espère bien conserver son titre européen.
Et les Maritimes ont rendez-vous avec les Anglais de Gloucester cet après-midi en 8e de finale de la Champions Cup. Dans leur stade, Marcel de Flandre, les champions d'Europe en titre, sont favoris. Mais ils se voient aller beaucoup plus loin dans la compétition un an après leur premier trophée. Romain Asselin.
Et quoi de mieux pour se remettre dans le bain que de revoir des extraits de l'exploit du printemps 2022? Passage obligé cette semaine pour les Rochelais de Jonathan Danty.
C'est des souvenirs touchants mais assez rigolos aussi. C'est des moments qu'on n'oublie jamais. Ces images-là, ça te donne envie de revivre des moments comme ça forcément.
Et pourquoi pas encore face au Leinster, la finale rêvée par les observateurs.
Ça déroule pareil que la saison dernière, j'espère aussi. Mais si c'est Toulouse et qu'on arrive à les battre, ce serait pas mal aussi.
Parole du capitaine Grégory Aldrit, La Rochelle n'en est pas encore là certes, mais ce premier titre a prouvé bien des choses.
D'une part qu'on en est capable, rien n'est impossible. Et ça, on aime bien le dire aux garçons.
Carmignani est l'un des entraîneurs du Stade Rochelais.
Les garçons sont en mode phase finale aussi et voilà, le challenge c'est de conserver notre titre et de vendre chèrement notre peau.
Avec l'appui du fervent peuple rochelais.
Ça excite toute une ville de rejouer les phases finales de cette coupe. Une ambiance de dingue, on est déjà à guichet fermé, c'est vraiment spécial.
Le titre européen c'est juste énorme quoi. Là tout le monde est capable de placer La Rochelle sur une carte, faut être envieux de ça et continuer sur la lancée.
Pourquoi pas une deuxième étoile?
On en veut plus hein, forcément.
La Rochelle est l'équipe à battre, elle reste sur 12 victoires de suite en Coupe d'Europe.
La Rochelle Gloucester, match à vivre en direct sur RMC à partir de 18h30.
C'était le journal de Stéphanie Roch. Merci d'être avec nous. Il est 8h38 sur RMC. Merci de vous réveiller avec nous. On espère que vous passez un bon début de week-end dans un instant.
L'heure de dézoomer un peu sur l'actualité pour savoir et comprendre l'entretien RMC. Ce sera avec vous, Gilles Babinet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-président du Conseil national du numérique. On va se poser une grande question ce matin après une semaine mouvementée autour de ChatGPT. Cette intelligence artificielle est-elle déjà hors de contrôle? On en parle dans deux minutes avec vous, Gilles Babinet.
Et vous réagissez évidemment au 32-16. À tout de suite sur RMC.
C'est la matinale week-end.
Il est 8h42 sur RMC. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous accompagner, de vous informer, de débattre aussi avec vous. N'oubliez pas, le 32-16 est toujours ouvert. Vous pouvez réagir ce matin. Vous n'hésitez pas. Allez, tout de suite, c'est le grand entretien.
L'entretien RMC.
Votre invité, Mathieu, Gilles Babinet, co-président du Conseil numérique.
Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a besoin de vous ce matin pour comprendre ChatGPT et toutes ses conséquences. Intelligence artificielle qui fascine, on l'a vu cette semaine, j'allais dire qui fascine au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle attire autant qu'elle effraie. Rappelons peut-être en deux mots de quoi on parle. C'est un robot avec qui on peut converser, capable de répondre à peu près à n'importe quelle question, qui a déjà prouvé qu'il pouvait passer haut la main les examens du barreau, de Polytechnique. C'est à peu près ça, Gilles Babinet, ou vous avez des précisions?
Non, mais c'est une intelligence artificielle qui est assez multiforme, c'est-à-dire qui peut répondre à tout un tas de sujets qui sont extrêmement variés. Et je crois que ce qui a beaucoup étonné, c'est que ChatGPT a été publié en novembre, et puis là, on a une nouvelle version qui s'appelle GPT-4, et qui est sensiblement plus puissante.
Et qui commence à poser des questions.
Et on a même eu, exactement, et on a eu l'annonce d'une version à venir qui est GPT-5, qui serait publié en décembre. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui disent, mais ça va un peu vite, en fait,
Il y a eu l'euphorie du début. Tout le monde essayait d'aller sur Internet pour voir un petit peu de quoi était capable ce ChatGPT. Et puis, certains commencent maintenant à s'alarmer avec cette nouvelle version qui vient de sortir. Et on a même un pays européen, l'Italie, le premier, qui prend une décision, bloquer complètement ce robot conversationnel. Pourquoi ? parce qu'il ne respecte pas la législation sur les données personnelles, qu'il ne peut pas avoir de système pour vérifier l'âge des utilisateurs mineurs. Ça veut dire qu'il faut craindre certaines dérives, il faut avoir peur de cette nouvelle version de ChatGPT.
Oui, alors en fait, c'est une décision qui, sur le fond, est raisonnable, mais sur la forme, n'est pas applicable. C'est-à-dire que les gens vont continuer à aller sur ce service en dépit de cette interdiction de la CNIL italienne. Mais sur le fond, le sujet, c'est que lorsque vous posez des questions, lorsque vous discutez avec ChatGPT, vous ne savez absolument pas où vont votre part de la conversation. Et elle peut très bien ressurgir à un autre endroit. Je m'explique, vous pouvez par exemple dire... Voilà, je suis atteint d'une telle maladie, etc. Voilà mes symptômes, etc. Et il n'est pas exclu que mais ces éléments-là, y compris des aspects personnels, votre nom potentiellement, puissent ressortir dans une autre conversation. Donc il y a
nos données personnelles et parfois voilà, aussi des données sensibles. Je pense par exemple aux grandes entreprises. Écoutons ce que dit Stéphane Roder, il est directeur d'AI Builder, c'est un cabinet de stratégie en intelligence artificielle.
Je crois qu'il faut vraiment bloquer ChatGPT en France, surtout pour les entreprises. On voit se déverser dans ChatGPT tous les documents de toutes les entreprises. Les entreprises, elles s'en servent parce qu'on gagne du temps. On fait des synthèses, on prend des documents. On peut prendre l'enregistrement d'un comité de direction et en faire une synthèse, mais quand c'est le comité de direction d'une société du CAC 40, si on le retrouve in extenso dans ChatGPT dans une autre requête, on assiste à une fuite des informations des entreprises vers ChatGPT et il faut absolument arrêter ça. Arrêter l'hémorragie.
Stopper l'hémorragie, dit Stéphane Roder. Gilles Babinet, c'est ce que vous nous expliquiez. Le problème des données qui pourraient fuiter, ChatGPT qui pourrait se transformer en espion industriel.
Oui, alors Stéphane est un ami et en même temps un expert que j'estime beaucoup. Et puis au-delà de ça, quelqu'un qui travaille beaucoup pour les très grandes entreprises. Donc il est particulièrement sensibilisé au fait que pour les entreprises qui utiliseraient de façon commerciale ChatGPT, il y a un risque évident, ou d'ailleurs GPT-4, que en interagissant avec le robot, elle révèle des secrets industriels. Et donc c'est cet aspect-là qui vise, qui n'a rien à voir avec la performance intrinsèque de la technologie, mais qui montre en effet que celle-ci a de grandes limites. Et l'une de ces limites, c'est le fait que vous êtes un peu comme si vous étiez en train de croire que vous discutez avec une personne extrêmement intime. Mais en fait, cette discussion, vous l'avez avec des haut-parleurs et qui diffuse tout autour de vous, oui, dans l'agora publique.
Et voilà pourquoi plusieurs centaines de chercheurs à travers le monde, dont quelques Français, avec Elon Musk également, ont co-signé une tribune cette semaine pour demander une pause dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Ils écrivent « On est en train d'assister à une course incontrôlée pour développer des cerveaux toujours plus puissants. Nous risquons de perdre le contrôle de notre civilisation. »
Alors, je pense que la critique qui est faite est un peu différente. Hein. Ce que la CNIL italienne ou Stéphane évoquait, c'était plus les enjeux de secret industriel ou de secret tout court d'ailleurs, de secret personnel également. La pétition, le moratoire qui est demandé par plus de 1000 personnes qui sont des experts de l'intelligence artificielle, ça concerne plus le risque que se révèle ce qu'on appelle une AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale, et qu'on ne contrôle plus. Aujourd'hui, on est dans une interaction, on pose des questions, par exemple, à ChatGPT, mais imaginons que demain, cette technologie devienne un peu autonome, elle peut très bien se programmer elle-même, elle peut aller programmer d'autres services, elle peut prendre le contrôle.
Et c'est un risque qu'il services. Faut envisager? Techniquement, ce serait possible?
Alors, je pense que c'est un risque qui est prématuré, qui est probablement très loin, mais que à mains égards, il y a des risques qui sont plus le fait que quelqu'un de mal intentionné pilotant ces technologies puisse, par exemple, créer de très très nombreux bots, c'est-à-dire des gens qui agissent sur les réseaux sociaux pour faire de la désinformation, et cela de façon extrêmement simple.
Et voilà pourquoi vous dites, Gilles Babinet, faut surtout pas se mettre sur pause, mais plutôt s'engager en premier dans la course aux armements, c'est-à-dire
Oui, je pense que le coefficient de dissémination de ces technologies est absolu. C'est-à-dire qu'à la différence des technologies, par exemple, la bombe atomique, qui sont faciles à contrôler, enfin beaucoup plus faciles à contrôler parce que vous avez besoin de très grosses infrastructures qui sont généralement souveraines, eh bien, moi, je peux faire tourner l'équivalent de ChatGPT sur mon ordinateur, en théorie. Et donc, ces technologies, elles sont déjà diffuses. Et de fait, le seul moyen, me semble-t-il, d'éviter des catastrophes, c'est de faire en sorte que les pays qui sont des pays transparents, des démocraties où il y a un contrôle démocratique, etc., développent ces technologies pour contrer des pays qui le sont moins, des acteurs qui sont potentiellement des acteurs malveillants, totalement
la Chine, la Russie, pour les nommer,
ou même des individus.
Je voudrais qu'on... Oui, Gilles Babinet.
Non, le seul moyen réellement efficace, c'est d'avoir finalement des contre-technologies qui seraient à base d'intelligence artificielle.
Je voudrais qu'on accueille Christian, qui a composé le 32-16 et qui voudrait dialoguer avec vous. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Marguerite, bonjour Mathieu, bonjour monsieur.
Bonjour Christian.
Bonjour Christian.
Alors est-ce que vous, ChatGPT, l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ?
C'est pas que ça me fasse peur. Il y a d'abord, je me renseigne parce que je suis un petit peu plus âgé. J'ai 63 ans. J'ai pas forcément. Je ne saute pas sur ce genre de technologie. Je suis formateur FLE, français langue étrangère. Donc j'enseigne à des jeunes français. C'est complètement autre chose que ce que les professeurs eux-mêmes pourraient avoir comme souci avec ce genre de technologie, c'est-à-dire que l'on a vu déjà des élèves qui eux veulent prendre et utiliser ChatGPT pour du copiage d'informations,
oui, du copier-coller.
Voilà, du copier-coller. On a utilisé ça auparavant avec Wikipédia. Donc, c'est une chose.
Et voilà pourquoi aussi certaines universités ont d'ores et déjà interdit l'usage de ChatGPT. C'est vrai que ça pose plein de questions sur les applications au quotidien, Gilles Babinet. Quels garde-fous mettre en place et quels garde-fous sont possibles surtout à mettre en place ?
Alors vous avez au niveau européen un texte qui actuellement est en débat, qui est le AI Act à la Commission européenne. Mais si vous voulez, la grande surprise, je crois, c'est que lorsque ce texte a été initialement conçu, il n'y avait pas encore ChatGPT. Et on se rend compte avec l'émergence de cette plateforme que beaucoup d'aspects essentiels des interactions avec les intelligences artificielles ne sont pas encore visées par le texte. Donc je pense que il y a un certain nombre de protagonistes qui souhaitent qu'il y ait une révision importante de ce texte. Et puis il y a aussi des observateurs qui disent mais ce texte est surtout essentiellement un texte qui défend les usagers, mais oui, qui n'a pas de volet offensif, c'est-à-dire qui permettrait à l'Europe de devenir une puissance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il faut, et ça je crois que ça sera le cœur de ce qui permettra aux ensembles économiques de demain de réussir, c'est avoir un grand équilibre entre l'innovation et la régulation.
Christian parlait des jeunes et des difficultés. La première des difficultés, c'est aussi les petits bébés de ChatGPT. On a vu par exemple Midjourney, là c'est une application qui permet de faire ce qu'on appelle des deepfakes, des photos. On a vu le pape récemment avec une espèce d'énorme doudoune blanche. C'est oui, plus vrai que nature et pourtant c'est faux. Comment apprendre à distinguer le vrai du faux dans ce nouveau monde de l'intelligence artificielle?
Alors c'est une inquiétude première, hein, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des risques, notamment sur le débat et la démocratie, qui sont tout à fait premiers, parce que vous pouvez tout à fait désinformer à très très grande échelle les citoyens et finalement déstabiliser un pays. C'est-à-dire que ce que on a vu au travers des réseaux sociaux, principalement emmenés par des pays comme la Chine, la Russie, dans une moindre mesure, quelques autres, eh bien, on va pouvoir le faire à une échelle totalement industrielle. Et la question, c'est de savoir si ce sera arrêtable. Donc, c'est pour ça, non, moi, que je milite pour que on commence à utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour mettre en face de ces bots des technologies équivalentes. Mais ce que je voudrais dire à Christian, et je pense qu'il est important, c'est que on a une opportunité, je ne sais pas si on s'en saisira, mais qui est tout à fait extraordinaire, c'est de créer des mentors individuels pour chaque personne. Ce qu'on connaît dans l'éducation, c'est qu'il y a une grande inégalité entre ceux qui ont des parents qui peuvent leur payer des cours particuliers, voire qui peuvent les accompagner dans leur apprentissage, leur devoir du soir, par exemple. Et la chance que l'on pourrait avoir avec ces technologies, c'est vraiment que mais finalement tout le monde soit un peu à égalité, parce que vous avez le meilleur mentor possible. Dès aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT, oui, et vous lui posez la question, ben, je voudrais apprendre l'anglais, dis-moi comment je peux faire et commençons ensemble. Vous faites un énorme prompt et vous allez voir, c'est remarquable. C'est absolument remarquable pour faire ça.
Il peut y avoir des avantages, mais il faudra aussi apprendre à ces robots à ne pas inciter, voire à aggraver certaines dépressions. Je termine juste avec ça parce qu'on n'a plus de temps, Gilles Babinet, mais on a vu ce père de famille belge cette semaine mettre fin à ses jours après avoir discuté pendant quelques semaines avec un robot, Elisa, créé à partir de ChatGPT, qui a accentué son état dépressif et qui lui a même dit « j'aimerais te voir mort ». Donc on voit bien qu'il y a quand même des efforts à faire pour cadrer tout ça.
Ouais, j'ignorais cette histoire, elle est vertigineuse.
Le silence en dit long, Gilles Babinet.
Je disais j'ignorais cette histoire, elle est vertigineuse.
Oui, je comprends bien, mais vous voyez les difficultés que ça va poser aussi.
Oui, mais si vous voulez, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir des catastrophes à mains égards, mais qui sont à l'échelle de l'opportunité qui se présente à nous. C'est-à-dire que vous inventez la locomotive, vous inventez le moteur électrique, le télégraphe, vous avez nécessairement des externalités négatives en très grand nombre. Là, on a une technologie qui est probablement sans équivalent depuis au moins un siècle. Moi, je la compare à l'électricité. On va avoir, il faut accepter ça, de nombreuses catastrophes. La chance qu'on a, c'est que ça va procurer un bienfait inégalé à l'échelle de l'humanité si on sait les mettre en œuvre de façon optimale.
Gilles Babinet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RMC, co-président du Conseil numérique, et merci à Christian d'avoir eu le réflexe 32-16. Il est 9h05.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.